18-20.
Le 18-20 ce soir sur ces super bactéries résistantes aux antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur plusieurs familles de bactéries potentiellement responsables d'infections graves, pneumonie, septicémie, infections urinaires, d'autant plus graves qu'elles mettent en échec donc les antibiotiques, y compris les plus récents. D'où viennent donc ces super bactéries? Pourquoi sont-elles antibio-résistantes, c'est-à-dire difficiles ou impossibles à soigner? Débat dans le téléphone sonne jusqu'à 20h. Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et la parole tout de suite à Georges qui nous appelle de Marseille. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voulais vous remercier tout d'abord pour vos programmes. Ma question est la suivante. Alors, je voulais connaître l'origine de ces super bactéries et en particulier si ça provenait d'une activité humaine.
Merci Georges pour cette question. Pour vous répondre, Xavier Lescure, bonsoir.
Bonsoir.
Infectiologue à l'hôpital Bichat, responsable de l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie. Philippe Glaser, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur à l'Institut Pasteur, directeur de l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Et je termine ce tour de table avec Véronique Julia. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste santé à France Inter. Qui veut répondre à Georges? Pour commencer, Philippe Glaser.
Oui, donc
rapprochez-vous, voilà, du micro.
Voilà, donc les bactéries résistantes d'abord et ensuite qui deviennent multirésistantes résultent en fait de majoritairement de l'utilisation des antibiotiques. C'est-à-dire que même Fleming, quand il a découvert la pénicilline, avait prédit que suite à l'utilisation de la pénicilline, il y aurait apparition de résistance aux antibiotiques. Donc chaque fois qu'on utilise un nouvel antibiotique, rapidement des bactéries résistantes apparaissent. Donc quand on cumule les antibiotiques, à la fin, on obtient des bactéries qui sont multirésistantes.
Et très graves, donc potentiellement, j'imagine.
Ben, potentiellement, elles deviennent plus graves parce qu'elles sont plus difficiles à traiter.
Vous n'avez pas les médicaments, les outils pour le faire?
Ben, actuellement, bon, dans les situations, donc peut-être mon confrère pourra parler plus précisément, mais au niveau, il y a des cas rares où on se retrouve sans antibiotiques, effectivement. Donc on a une bactérie qu'on va appeler pan-résistante, c'est-à-dire résistante à tous les antibiotiques qui sont disponibles en santé humaine, c'est-à-dire des antibiotiques qui n'ont pas un effet toxique trop important.
Xavier Lescure.
Tout à fait. On a la résistance bactérienne est assez clairement liée à l'utilisation des antibiotiques, donc à l'interaction et à l'impact de l'homme et de la prescription antibiotique. Aujourd'hui, en termes de résistance, on a la multirésistance qui impacte sur le traitement de première ligne, le traitement antibiotique de référence de première ligne.
C'est-à-dire celui donné par...
Celui qui est donné de façon
courante
soit dans les hôpitaux, aux urgences, soit en médecine en ville, qui la plupart du temps est par voie orale et donc n'implique pas de contraintes d'hospitalisation ou de traitement particulier. On a les bactéries extrêmement résistantes où les alternatives commence à se retrécir, où le choix est un peu limité. Et puis on a, comme disait mon confrère, la pan-résistance ou la résistance totale, où on est en impasse thérapeutique. Mmh. Cette situation est exceptionnelle. La fréquence dépend de l'endroit où on se situe sur la planète, mais l'évolution de cette pan-résistance ou de cette résistance extrême est en train d'augmenter. Et dans certains pays, la multirésistance est en train d'augmenter de façon très significative.
Véronique Julia.
En fait, c'est la bactérie qu'on cible mute. C'est ça, en fait, le mécanisme. Elle se défend et donc elle mute. Non, c'est un peu trop simple.
Qui veut répondre, Philippe Glaser?
En fait, on peut faire référence à Darwin, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 milliard de bactéries. Sur ce 1 milliard de bactéries, il y en a une qui finalement va avoir une mutation qui va lui permettre d'échapper à l'antibiotique. Et cette bactérie unique va ensuite proliférer et du coup, l'infection va rechuter et les traitements vont être inefficaces.
Quel est le sens de cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS? Comment comprendre cette prise de position publique qui est tout de même assez inquiétante, Xavier Lescure?
Alors c'est une deuxième couche d'alerte, puisque la première alerte a été donnée en 2014, où l'OMS avait évoqué la possibilité d'aboutir à moyen terme à une ère post-antibiotique devant justement l'émergence de ces résistances, de ces bactéries, de ces super bactéries ou de ces bactéries extrêmement résistantes. Elles ne sont pas particulièrement plus virulentes. Ce n'est pas des super héros du monde bactérien, c'est de la super résistance. Elles conduisent à un impact sur la mortalité parce qu'elles résistent aux traitements antibiotiques qui est donnée de façon empirique, probabiliste, quand on est en face d'une infection et qu'on n'a pas le temps d'attendre de savoir en face de qui on se trouve en termes de bactéries. Donc c'est une deuxième alerte. La première avait été donnée en 2014 et aujourd'hui, devant l'évolution de cette, et l'augmentation de cette résistance et de cette extrême résistance, on a une deuxième couche avec l'identification des agents sur lesquels il faut se focaliser.
Et c'est vraiment critique. Enfin, il y a besoin d'une deuxième couche, d'une deuxième alerte parce que le phénomène prend de l'ampleur.
Alors, je pense que la deuxième couche, elle est donnée pour deux raisons. La première, c'est que entre la première et la deuxième couche, il y a une prise de conscience, mais il y a des actions qui restent limitées et assez peu coordonnées sur le plan global, alors que c'est un problème, c'est une pandémie, hein. Il faut prendre la situation de façon globale et internationale. Certains pays ont acté des choses qui sont maintenant efficaces, mais les frontières sont poreuses vis-à-vis de la résistance, et Dieu sait si la résistance se promène. Et la deuxième raison, c'est que on a quand même des inquiétudes sur entre la première et la deuxième alerte, on a une évolution avec quand même des impasses thérapeutiques qui sont préoccupantes.
Véronique Julia, puis Philippe Glaser.
Le tableau, il est très sombre, hein, puisque les prévisions, c'est 10 millions de morts en 2050, d'après une enquête britannique, je crois. Donc ça veut dire autant de morts que du cancer lié à l'antibiorésistance. Vous êtes d'accord avec ces chiffres?
En fait, c'est un message, c'est si on ne fait rien, si on arrivera rien à ces chiffres-là.
Alors justement, est-ce que l'industrie pharmaceutique fait? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle ne développait pas beaucoup d'antibiotiques depuis quelques années.
Voilà, mais en fait, le texte de l'OMS, c'est un des points qui est souligné, c'est comment stimuler la recherche sur les antibiotiques. Parce que c'est une question qui est assez compliquée, parce qu'il y a un problème de rentabilité quand on développe un nouvel antibiotique. Parce que l'idée, c'est que le législateur va décider que s'il y a un nouvel antibiotique, on l'utilise très peu. On l'utilise en dernier recours. Donc on aura quelques cas par an où on va utiliser cet antibiotique lorsque tous les autres sont inefficaces. Et donc, du coup, on voit bien que le marché est très limité. Donc, soit les prix sont exorbitants, soit il faut qu'il y ait les États qui interviennent pour favoriser ça. Et en fait, le schéma qui est envisagé, c'est un schéma de partenariat public-privé avec la recherche académique et la recherche industrielle. Et l'idéal, ce serait qu'ils travaillent ensemble pour arriver à des molécules et qu'ensuite, l'industrie privée fasse les différents tests, les différents niveaux de tests. Et il doit y avoir des incitations financières aussi.
Mais à 10 millions de morts, c'est un marché porteur, non ?
Oui, mais ça, c'est si rien n'est fait.
Non, mais vous comprenez donc, le sens de ma question.
Voilà. Oui, mais il y a plein de bactéries qu'il faut cibler,
donc,
en fait.
Oui, bien sûr.
Il y a un grand nombre. Donc, c'est vrai que
l'argument qui consiste à dire qu'on va s'en servir très peu alors que la crise semble mondiale, pandémique, et qu'elle pourrait toucher, si on ne fait rien, 10 millions de personnes. Modèle économique. Donc, cynique, mais
en fait, il y a aussi un point, qui est très important. C'est en fait, dans le cadre de la résistance, il y a à la fois une piste sur le développement de nouveaux antibiotiques, mais il y a une piste importante sur la meilleure utilisation des antibiotiques actuels. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un effort qui est important qui est fait dans la médecine vétérinaire pour utiliser beaucoup moins d'antibiotiques et pour les utiliser uniquement quand c'est nécessaire. Et il y a un dernier point, c'est qu'il y a une disparité mondiale. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, notamment dans le sud-est asiatique, où on a des niveaux de résistance qui sont extrêmement élevés.
On va venir à cette géographie et on repasse au standard. Ronald, bonsoir.
Vous m'entendez bien ?
Parfaitement bien.
Très bien, c'est parfait. Oui, moi je disais tout à l'heure à votre collègue qui a recadré un peu ma question parce que j'étais un petit peu... pour moi, ça va être un peu la course à l'échalote, hein, parce qu'on va retrouver d'autant antibiotiques, j'allais dire synthétiques ou peut-être même naturels, enfin surtout synthétiques, et puis les bactéries vont encore, dirais-je, s'adapter, quoi. Alors, par contre, ce qui est très bien, c'est que votre interlocuteur tout à l'heure, le monsieur que je viens d'entendre, disait que dans l'élevage, parce qu'on utilise beaucoup d'antibiotiques dans l'élevage plus ou moins industriel, et si on prend conscience de ça, je pense que c'est une voie de succès, une voie d'amélioration. Moi, personnellement, je prends de la propolis, du thym, des choses comme ça, des choses que je trouve dans la nature, voyez-vous. Je passe pas par les labos.
Et ça marche ?
Ah bah écoutez, la propolis, renseignez-vous, ça marche depuis très longtemps, oui, bien sûr.
Mais enfin, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas été frappé par une super bactérie que vous avez soignée avec du thym. C'est une question ouverte et absolument pas ironique.
Non, mais je comprends bien. Mais pour vous donner un exemple, bon, moi j'ai 66 ans, hein, ma fille, quand elle était petite, elle avait un abcès sur la... dans la bouche, hein. Et bon, moi, c'était le grand-père de ma femme qui est apiculteur, et puis j'ai su qu'on pouvait mettre de la propolis, voyez-vous. Voilà. Et puis, vous savez, quand il y a une abeille, enfin, une souris qui rentre dans une ruche qui est mal faite, les abeilles tue la souris et l'enveloppe de propolis. Enfin, c'est connu depuis très longtemps. Oui.
Bah écoutez, voilà. Merci beaucoup, Ronald, pour votre intervention que je vais soumettre à Philippe Glaser et à Xavier Lescure. Xavier Lescure, c'est pour vous.
Non, c'est intéressant. Il y a des pistes sur l'apithérapie, justement, sur la thérapie du miel dont on s'est servi il y a quelque temps. Et on essaye de c'est des approches alternatives qui sont pas des antibiotiques. Il y a les probiotiques, il y a aucune preuve scientifique, mais il y a des pistes. Il y a la phagothérapie, les
phages. J'ai une question là-dessus. J'imagine que pensez-vous de la phagothérapie dans la lutte contre les bactéries super résistantes? Voilà. Et mais pourquoi son utilisation n'est-elle pas plus étudiée? Nous demande Jocelyn.
Je vais finir de.
Oui, bah, allez-y. Je vous ai remis une question. Allez-y.
Il y a des alternatives de recherche non antibiotiques. Mais tout ça, c'est efficace quand on a une infection bactérienne non sévère, dont on pourrait à la limite guérir tout seul, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un système immunitaire qui nous aide à se défendre contre les micro-organismes. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez une infection grave, la propolis ne fera rien. Ce qui est sûr, c'est que les médecines alternatives ou certains types d'infections, dont on est sûr qu'elles ne sont pas bactériennes, comme la rhinite, le rhume, ou la bronchite du sujet non bronchopathe. La bronchite ne nécessite pas de traitement antibiotique parce qu'elle n'est jamais bactérienne. Mmh. La rhinite ne nécessite jamais d'antibiotique parce qu'elle n'est jamais bactérienne. Une infection urinaire est quasiment systématiquement bactérienne, donc la propolis n'y fera rien, sauf à stimuler potentiellement votre immunité.
Mmh. Philippe Glaser, vous voulez ajouter un mot ?
Sur la phagothérapie, donc moi c'est un domaine qui il y a des certains pays où c'est utilisé.
Expliquez-nous.
En Géorgie. Donc en fait la phagothérapie, ce sont des virus qui sont des virus de bactéries. Donc ce sont des virus qui vont tuer des bactéries. Alors la difficulté avec ces virus, c'est que ces virus ont une certaine spécificité, c'est-à-dire qu'ils vont cibler une seule espèce bactérienne. Donc il faut être sûr déjà que l'infection est due à cette espèce bactérienne. Ensuite, injecter dans le sang des virus, c'est quelque chose qui est un peu discutable. Il y a quand même un risque, donc il faut faire attention. Il va y avoir une réponse immunitaire contre le virus bactérien, même si le virus bactérien ne va rien faire aux cellules humaines. Et puis les bactéries deviennent très rapidement résistantes au virus. Mais les recherches quand même se développent. Il y a par exemple une équipe à l'Institut Pasteur qui va par exemple tenter d'utiliser plusieurs virus contre une bactérie pour éviter ce problème de résistance. Et il peut y avoir des intérêts par exemple pour les virus, les infections cutanées, par exemple dans le cas de brûlures. Et c'est vrai que chaque fois, comme on disait Xavier, chaque fois qu'on utilise des méthodes alternatives, c'est une consommation plus faible d'antibiotiques, donc on contribue moins à l'émergence de la résistance.
Mais la phagothérapie Véronique, peut pas être Julia. La solution face à l'antibiorésistance. C'est une solution parmi d'autres. Il faut développer quand même des nouveaux antibiotiques ou pas ?
C'est une solution parmi d'autres, ouais. Mais il faut de toute façon continuer à développer des recherches sur l'identification de nouveaux antibiotiques.
Anne-Christine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez bonsoir de Corse.
Oui, je vous appelle de Corse. Voilà, alors peut-être que pendant que j'étais en train de parler avec un de vos comment dit-on, techniciens ?
Oui, peut-être, collègues, consoeurs, confrères.
Bon, peut-être qu'une définition a été donnée et que je ne l'ai pas entendue. Moi, en fait, je voudrais bien qu'on m'explique à partir de quel moment une bactérie est résistante, puisqu'il me semble que nous avons dans l'abdomen tout un tas de bactéries. Est-ce qu'on parle de ces bactéries? Parce que, par exemple, je viens d'entendre qu'on a parlé d'une infection bactérienne au niveau de la vessie. Souvent, il y a des Escherichia coli. Est-ce que c'est... Puisque ce sont nos propres bactéries, je ne comprends pas à partir de quel moment elle peut être résistante. C'est résistant si on prend beaucoup de médicaments. Je suis nulle et je suis navrée de ne pas comprendre et je voudrais bien qu'on m'explique.
Mais il n'y a absolument aucun problème, Anne-Christine. Xavier Lescure, je vous remercie pour votre question. Xavier Lescure va tout vous expliquer.
Je vais essayer. C'est une excellente question, en fait, parce que ça permet d'aborder un des points centrales de l'antibiorésistance actuelle qui est porté dans les trois principales superbactéries. Il y a justement l'Escherichia coli, le colibacille, qui est responsable des infections urinaires notamment. Le problème, c'est que quand on a une infection, il y a un combat entre l'organisme et le micro-organisme. Avant les antibiotiques, on était souvent perdant. Depuis l'ère des antibiotiques, on a renversé la balance. Mais dans ce combat, il y a des dégâts collatéraux qui sont Pour ce qui nous occupe aujourd'hui sur la résistance des entérobactéries, c'est-à-dire des bactéries du tube digestif, la pression de sélection, dont parlait mon collègue, sur le microbiote intestinal, sur les bactéries de la flore du tube digestif. Donc sur une première infection urinaire, avant toute prise d'antibiotiques, vous ferez une infection urinaire à un colibacille sensible. Et si vous refaites, mais par contre vous allez avoir un impact, vous allez aussi avoir un impact sur toutes les bactéries qui sont contenues dans le tube digestif, 100 000 milliards de bactéries dans le tube digestif, celles qui sont sensibles au traitement vont disparaître et vont laisser la place aux bactéries résistantes qui vont coloniser votre tube digestif pendant plusieurs mois. Si vous faites une deuxième infection urinaire pendant cette période-là, vous êtes à fort risque de la faire avec une infection à colibacille résistant, et c'est comme ça que naît la résistance bactérienne, avec des prises d'antibiotiques répétées.
Philippe Glaser voulait ajouter quelque chose.
Oui, sinon, de manière simple, hein, une bactérie est résistante à un antibiotique, hein, quand elle survit, quand on la met en présence d'un antibiotique. Sinon, une bactérie sensible est tuée par l'antibiotique.
Mmh. Jocelyne, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Voilà, alors écoutez, voilà, j'ai été 6 ans sous antibiotiques. J'ai vu 3 professeurs qui me disaient que je me soignais très bien. C'est-à-dire que quand j'avais une petite crise, je prenais un antibiotique qui durait pendant 8 jours et ainsi de suite. Et pendant 6 ans, ça m'a bouffé ma vie, c'était horrible. Je partais de chez des amis parce que ça me brûlait, c'était horrible. Je ne savais plus quoi faire. J'ai fait une arythmie cardiaque. Les antibiotiques ont fait barrage par rapport aux médicaments qu'on me donnait. J'ai eu 3 sets de tension avec 36 de battements et on m'a dit que c'était les antibiotiques qui avaient fait barrage. D'autre part, il a fallu que j'aille voir une phlébologue qui m'a dit exactement la même chose que vous venez de dire. Attention, parce que le jour où vous aurez un problème, vous risquez de faire une septicémie, essayez de trouver. Et donc depuis 2 ans, je me soigne par de l'homéopathie. Et la dernière crise que j'ai fait une pyélonéphrite emmenée d'urgence à l'hôpital. Et depuis, je n'ai plus rien. Je ne dis pas que ça me brûle, c'est toujours un petit peu, mais beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Et je n'ai pas d'antibiotiques.
Jocelyne, restez en ligne. Quelques questions exploratoires pour que la consultation soit féconde de Xavier Lescure.
Si j'ai bien compris, vous avez eu 6 années d'antibiotiques répétées pour des infections urinaires qui récidivaient.
Oui, complètement. Complètement.
Et ça n'a servi à rien, donc, à vous entendre.
Ça servait, si vous voulez, ça calmait pendant 3-4 jours. Et puis après, il fallait que je passe au premier, deuxième, troisième antibiotique au plus fort.
C'est ça, oui.
Il y avait une accalmie pendant un petit moment, c'est-à-dire que je souffrais un peu moins. Mais après, aussitôt que les antibiotiques arrêtaient, soit le troisième qui était très fort, j'arrêtais pendant 8-10 jours, la prise 8 jours et après 2-3 jours et ça repartait. Donc les médecins que j'ai vus m'ont dit de continuer, que je me soignais très bien avec les antibiotiques.
Merci Jocelyne. Voilà. Xavier Lescure, vous avez la parole.
Deux remarques. La première, c'est que ce sont des infections, les infections urinaires récidivantes, c'est assez peu fréquent, hein, mais ça, effectivement, ça survient. Ça arrive. C'est très contraignant, c'est complexe. La première chose à faire, c'est d'essayer d'identifier la cause qui explique cette récidive. La plupart du temps, c'est des mesures assez simples d'hygiène du quotidien. Parfois, il y a des anomalies anatomiques de l'arbre urinaire ou fonctionnelles de l'arbre urinaire, de la vessie, des tuyaux, de la tuyauterie entre les reins et la vessie ou la vessie et le méa. Parfois, quand on essaye de chercher et qu'on ne trouve rien, effectivement, il y a des problèmes d'immunité avec la muqueuse, de défense, etc., des causes génétiques. Toujours est-il que vous êtes l'exemple typique de l'instauration d'un cercle vicieux où parfois on n'a pas le choix, et il faut trouver, et à l'échelle individuelle, l'occasion de casser ce cercle vicieux. Il y a des traitements, et c'est là qu'on peut aller chercher éventuellement des traitements alternatifs. Mais il y a des mesures très simples qui sont très efficaces, hein, c'est d'augmenter le nombre de mictions, parce que quand on vidange la vessie le plus souvent, on élimine les colibacilles qui sont sur la muqueuse. Vous êtes aussi un exemple individuel du problème collectif, c'est-à-dire que là, vous illustrez la résistance à l'échelle individuelle avec des prises répétées, mais il y a aussi un impact collectif de la surconsommation d'antibiotiques avec une résistance qui est dispersée et qui circule dans la communauté.
Philippe Glaser.
Non, mais je pense que je n'ai pas rien à ajouter à ces.
Eh bien, on retourne au standard. On retourne au standard. Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Alors, c'est une réflexion un peu générale. Dans certains pays du Sud, on trouve des antibiotiques en vente en pharmacie. On peut les obtenir sans ordonnance, sans aucune prescription. À l'ère de la mondialisation d'Internet, du téléphone portable, où en est-on de la mondialisation d'un bon usage des antibiotiques dans ces pays qui ont un mauvais usage de l'antibiotique.
Et nous revoilà, merci beaucoup Marie, nous revoilà grâce à vous donc avec cette question de géographie. Philippe Glaser.
Alors en fait, il y a deux problèmes, parce qu'il y a ce problème de la vente libre des antibiotiques, ça, sans prescription. Et non seulement c'est certains antibiotiques, donc en France, comme vous savez, vous devez avoir une ordonnance pour acheter des antibiotiques, mais il y a certains antibiotiques, les antibiotiques de dernier recours, qui ne sont prescrits qu'à l'hôpital. Et donc là, ils sont en vente libre, donc il y a beaucoup de résistances qui apparaissent. Mais il y a un second problème, ce sont les faux médicaments ou des médicaments dilués. C'est-à-dire que non seulement, donc ce qui fait qu'il va y avoir des médicaments qui sont ces médicaments de dernier recours, mais qui vont être dilués. Et quand on a une concentration plus faible d'antibiotiques, on prend une sous-dose, de la même façon que quand on a un traitement qu'on va interrompre trop tôt, on va finalement favoriser l'apparition de bactéries résistantes. Donc ce qui fait que ça cumule les problèmes. Non seulement il y a un mauvais traitement, c'est-à-dire que les gens sont malades et ne sont pas soignés, et d'un autre côté, il y a des bactéries résistantes qui apparaissent, donc dues à ces sous-dosages, dues à ces faux médicaments ou ces médicaments dilués.
Véronique Julia.
Oui, souvent quand on est guéri, au bout de 3 jours, on oublie de prendre la fin de la boîte. Ça, je savais pas, ça développe aussi des résistances, de ne pas aller au bout du traitement, de ne pas faire les 6 jours indiqués.
En fait, quand on a un traitement qui est trop faible, en fait, c'est un petit peu, on pourrait dire, quand on donne un antibiotique, c'est comme si on donnait un coup de marteau sur les bactéries. Donc, soit on donne un vrai coup de marteau, on tue les bactéries. Mais si on donne un coup de marteau un peu trop faible, finalement, il va y avoir quelques bactéries survivantes et ces bactéries, elles vont être un petit peu résistantes. Mmh. Et parfois, un mécanisme de résistance, c'est d'acquérir au fur et à mesure un peu plus de résistance, un peu plus de résistance et d'avoir finalement une bactérie qui est totalement résistante.
Xavier Lescure.
Oui, j'avais deux petites remarques. La première sur la globalisation, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Comme on disait tout à l'heure, la résistance traverse les frontières. Il y a plusieurs mécanismes qui expliquent qu'aujourd'hui, le focus, c'est les pays du Sud, les pays le sous-continent indien. C'est la vente libre des antibiotiques, effectivement. C'est les antibiotiques qui sont moins concentrés. C'est aussi là où on fabrique les antibiotiques, avec donc un environnement autour des usines d'antibiotiques qui peut induire de la résistance dans les populations environnantes. Et puis, c'est aujourd'hui sur une résistance qui est portée par le tube digestif. C'est aussi très associé au niveau sanitaire, à la gestion des eaux usées et au péril, ce qu'on appelle le péril orofécal, c'est-à-dire la tourista. Mais aujourd'hui, cette transmission par les eaux usées, par l'alimentation, va permettre de véhiculer la résistance bactérienne.
Oui, allez-y.
Et la deuxième petite remarque sur la durée des traitements et le dosage des traitements, il vaut mieux taper fort et court. Et aujourd'hui, dans le bon usage à l'échelle collective, on essaye de raccourcir la durée du traitement qui est basée sur un socle scientifique qu'on essaye de remettre en question pour raccourcir la durée des traitements pour avoir un impact sur la communauté le plus faible possible. Parce que quand vous gagnez 3 jours de traitement sur 10 jours, c'est un tiers de consommation en moins. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas perdre la main sur la concentration et le dosage de l'antibiotique.
Il est 19h46. Merci d'écouter France Inter. Le téléphone sonne, continue.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Nous parlons des bactéries, des superbactéries, de l'antibiorésistance avec Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, Philippe Glaser, chercheur à l'Institut Pasteur, Véronique Julia, journaliste spécialiste santé à France Inter. Bonsoir Axel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Alors voilà, je vous appelle, je suis infirmière. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai parfois des patients qui arrivent vers moi, enfin, qui sont hospitalisés, qui me disent « je comprends pas, je n'ai jamais pris d'antibiotiques » ou très rarement, et mais je me retrouve avec une BMR dans les urines, par exemple. Du coup, c'est vrai que je me demande, est-ce qu'il peut pas y avoir une influence justement entre la consommation de viande qui vont être imbibées finalement d'antibiotiques et justement les BMR qui apparaissent chez l'homme.
Mmh. Alors, merci beaucoup pour cette question. Virginie pose une question comparable. Le lien avec la production industrielle des animaux vaccinés et traités préventivement est-il avéré? Philippe Glaser.
Normalement, selon la réglementation, quand un animal a pris des antibiotiques, il doit y avoir une certaine durée avant que cet animal soit abattu pour la production de viande. Et donc, la concentration d'antibiotiques est vérifiée, elle est inférieure à un seuil qui est très bas. Donc ça, c'est sans doute pas le problème. Par contre, comme l'a mentionné Xavier, le point, c'est que les bactéries résistantes circulent. C'est-à-dire que les antibiotiques qu'on prend vont avoir un impact sur donc le microbiome, sur la flore chez nos voisins qui va circuler. Et donc, du coup, il y a des bactéries qui circulent. Et un exemple, c'est lié au voyage. C'est-à-dire que si on va passer une semaine de vacances dans le sud-est asiatique, on a toutes les chances de revenir avec une bactérie multirésistante qu'on va éliminer et qui ne va pas forcément causer une maladie, mais on va la transporter dans notre tube digestif. Mmh. Donc, on transporte des bactéries résistantes.
Xavier Lescure.
Alors oui, juste pour compléter effectivement sur l'apport de la résistance dans un foyer en ville. Il y a effectivement l'alimentation, et cette alimentation, comme l'a dit mon collègue, n'est plus porteuse d'antibiotiques. Elle est porteuse de résistance parce que le bétail, les ovins, les bovins, poulets, ont subi une pression de sélection, puisqu'ils sont arrosés d'antibiotiques très régulièrement, même si les vétérinaires ont fait d'énormes progrès. Mais il y a une exposition aux antibiotiques qui fait qu'ils sont porteurs de résistance. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'un poulet sur quatre porte des colibacilles résistants aux antibiotiques usuels. Mais il y a aussi effectivement une circulation dans les foyers. Aujourd'hui, en France, on est en population générale à 5% de personnes qui sont porteuses de colibacilles résistants, alors qu'ils n'ont pas forcément de facteur de risque de résistance bactérienne, ils n'ont pas d'explication particulière, parce que ça circule d'une personne à l'autre par des contacts directs, par le niveau d'hygiène à la maison. Donc c'est une mesure très simple, c'est de se laver les mains. Et la troisième remarque sur les voyages, c'est très important, c'est que on peut acquérir de la résistance lors d'un voyage. Des études montrent que ce taux d'acquisition est important. Si vous allez passer une semaine en Thaïlande, que vous avez la tourista et que vous prenez un peu d'antibiotiques par rapport à une diarrhée, vous avez 70% de risque d'acquisition d'une bactérie résistante aux antibiotiques. Et ce portage dans le tube digestif va durer à peu près 3 mois.
Et à quel moment, juste excusez-moi, ça devient grave? Parce que là, vous dites, on en transporte, etc. Exactement. On dit que ces super bactéries peuvent faire mourir. Alors, à quel moment on meurt, pour le dire vite et mal?
Mais j'allais y venir.
Ah bah, c'est-à-dire super. Allez-y.
Finalement, c'est pas très grave de porter de la résistance, puisque les bactéries sont là depuis 7 milliards d'années, et nous, Homo sapiens, depuis 200 000 ans. On a dû s'adapter, et donc on a des gènes de résistance bactérienne, c'est pas un souci. On a... le spécialiste de l'évolution est en train de rigoler parce que je dis peut-être des grosses erreurs.
3,5 milliards d'années seulement.
3,5 milliards, j'ai dit 4, j'ai faute.
Bon,
donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on passe notre vie à s'adapter à la bactérie et vice-versa. C'est pas grave de porter en soi de la résistance. Ce qui est grave, c'est de l'entretenir et de prolonger la durée de cette résistance. Et ça, c'est les antibiotiques. Si on a besoin d'un antibiotique pour une infection bactérienne, il faut le prendre, quels que soient les dégâts collatéraux. Si on n'a pas besoin d'antibiotiques ou si on peut prendre un antibiotique avec des dégâts collatéraux moins importants, il faut le faire.
Et on meurt quand on est déjà atteint par d'autres pathologies, que le corps est fatigué, le système immunitaire déprimé, et que la superbactérie vient ravager l'ensemble, créer des septicémies, ce genre de choses. C'est ça le scénario ?
Oui, il y a 12 000 morts par an en France à cause de l'antibiorésistance, semble-t-il. C'est qui ? C'est des personnes âgées ?
Parce qu'il paraît que les être jeunes, c'est pas non plus un avantage, ai-je lu.
Alors, il y a plusieurs. Alors, d'abord la part attribuable de la résistance bactérienne vis-à-vis de la mortalité, elle est très difficile à évaluer. 12 000, c'est un chiffre, mais il peut être discuté dans un sens comme dans l'autre. La projection des 10 millions de décès de morts liés à la résistance bactérienne en 2050, elle est aussi discutable, mais c'est vrai que. Il faut aussi relativiser. Tout ça, c'est pour le moment, ce sont des phénomènes rares et on a rarement des cas d'impasse thérapeutique. Pourquoi on meurt ? Soit parce qu'on est fragilisé génétiquement, parce qu'on reçoit des traitements de chimiothérapie anticancéreuse, soit parce qu'on est âgé, soit parce qu'on est fragilisé par d'autres maladies chroniques, soit parce qu'on tombe en face d'une bactérie extrêmement virulente et qu'elle soit résistante ou pas. Un streptocoque mangeur de chair peut tuer une personne en bonne santé en quelques heures. Voilà, c'est le jeu de la génétique et c'est le jeu des interactions entre le monde bactérien.
Et l'âge est un critère ou pas ?
L'âge est un critère dans certaines infections, la plupart, mais on peut croiser une bactérie super virulente et en mourir quel que soit son âge.
Le standard, Sophie, nous attend depuis une dizaine de minutes. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre ma question et bravo pour la qualité de vos émissions. Ma question était très simple, comment réagir en cas de petit enfant, donc un nourrisson qui est présent, donc qui a un antibiogramme qui est toujours en phase de résistance, avec donc des antibiotiques à large spectre. C'était un Escherichia coli dans les urines de ma fille et elle n'avait bien évidemment jamais pris d'antibiotiques puisqu'elle était âgée à l'époque de 3 mois. Et tous les antibiogrammes qu'on a pu faire à chaque fois étaient toujours avec le même résultat, c'était résistance. Mmh. On a dû se retourner vers d'autres alternatives. Mais bon, on dit que la résistance se développe à force de prendre des antibiotiques. Là, ma fille était vierge, hein, c'était le compteur à zéro, elle était toute petite, elle avait 3 mois, jamais pris de médicaments, elle était allaitée. Est-ce que c'est... Voilà, la question est tout simple.
Merci Sophie, Xavier Lescure vous répond.
Alors ça va compléter ma réponse de tout à l'heure. C'est que par rapport à la question de Nicolas sur l'âge, pour préciser, il faut dire que ce sont les âges extrêmes. Donc c'est les personnes âgées et les très jeunes enfants, les nourrissons, les nouveau-nés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la résistance bactérienne circule dans la ville. Et c'est ça qui est une des préoccupations. C'est ça par rapport, par exemple, il y a 10 ou 15 ans, on serait venu là, on aurait parlé du staphylocoque doré résistant. Aujourd'hui, on a contrôlé partiellement, on a restreint, on a diminué de 25% la fréquence des infections à SARM, à staphylocoque doré résistant. Elle circulait très peu en ville, en tout cas en Europe. La particularité et un des critères d'inquiétude de ces superbactéries, c'est qu'elles circulent en ville et que c'est beaucoup plus facile d'appliquer des mesures de contrôle et de prévention. Et aujourd'hui, en France, en pédiatrie, pour ce qui vous concerne, on sait sur les dernières données qu'un enfant sur 10 va présenter une infection à colibacille résistant.
Donc même s'il n'a jamais pris d'antibiotiques, ce qui est le cas de ce que nous disait Sophie.
S'il n'a jamais pris d'antibiotiques, la fréquence est bien moindre parce que les jeunes enfants prennent beaucoup d'antibiotiques parce qu'ils développent leur immunité, ils ont souvent de la fièvre et il faut parfois mettre des antibiotiques de façon un peu probabiliste. C'est des recommandations. Mmh. Mais on peut aussi avoir un enfant qui n'a jamais pris d'antibiotiques et qui a acquis la résistance à la maison, véhiculé par son papa, sa maman, qui a eu des contacts avec l'étranger, avec un poulet imprégné de résistance.
Vous voulez dire un mot, Philippe Glaser ?
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'était aussi par rapport à la question de la transmission. C'est-à-dire qu'il va y avoir des transmissions qui peuvent avoir lieu à la maison, qui peuvent avoir lieu. Mais il y a bien un point qui est quand même très important, c'est la transmission à l'hôpital. Et tout à l'heure, on discutait des personnes qui ont un séjour à l'étranger dans des pays à risque où il y a un taux de résistance important. Et en fait, il y a des précautions qui sont prises à l'hôpital pour éviter finalement les risques de transmission entre les personnes. Donc il y a le lavage des mains, quelque chose qui est très important. Mais si par exemple une personne arrive à l'hôpital et revient d'un voyage, par exemple dans le sud-est asiatique, hein, systématiquement on va faire donc une analyse de sel pour identifier si elle est porteuse de bactéries multirésistantes. Et si elle est porteuse de bactéries multirésistantes, alors il va y avoir une façon de la gérer de manière particulière en termes d'isolement ou en termes de chambre seule, etc., pour éviter finalement la transmission d'une personne à une autre personne. Ça, c'est un point qui est très important pour limiter les risques d'une épidémie dans les hôpitaux.
Xavier Lescure, puis Manel au standard.
Et ce, quel que soit le niveau de résistance de la bactérie, c'est-à-dire que même si sur des bactéries extrêmes ou totalement résistantes, ces mêmes mesures d'hygiène, notamment avec les solutions hydroalcooliques qui sont vendues en pharmacie de ville, sont efficaces. Et pour revenir sur les pour aussi compléter sur les voyages, aujourd'hui, je pense qu'on est à un point où le voyage, le retour de voyage et la résistance bactérienne s'intègrent comme une pathologie exotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez du Sénégal et que vous avez de la fièvre 2 mois après, on vous a conseillé avant, si vous avez eu un conseil de voyage, de spécifier au médecin, si vous avez de la fièvre au retour, de préciser que vous êtes allé en pays à risque de paludisme. Il faut aujourd'hui prendre conscience que c'est aussi un risque de la résistance bactérienne et que le médecin doit en être informé.
Manel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci.
Bienvenue.
De prendre mon appel. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'appelle pour... en fait, j'ai deux petites questions. L'histoire, c'est que ma petite fille qui a 6 ans, ça fait 2 ans qu'elle fait des angines à répétition. Son médecin lui donne plusieurs antibiotiques. Il enchaîne les antibiotiques, différents antibiotiques. Au bout d'un moment, on s'est quand même inquiété. On est allé voir 2 ORL qui nous ont conseillé de voir en fonction du nombre d'angines bactériennes, sauf que notre médecin ne fait jamais le test, savoir si c'est bactérien ou pas. Alors que l'ORL nous le recommande. Et voilà, donc notre médecin pense que ce test-là n'est pas efficace et qu'il ne sert à rien et que ce n'est pas grave si elle prend autant d'antibiotiques. Mmh. Il n'a pas l'air de croire à la résistance antibiotique. Donc ma question, c'est de savoir est-ce que ce test est réellement efficace, le test qui est fait en 10 minutes, voilà, avec un petit prélèvement rapide à faire au fond de la gorge, est-ce qu'il est efficace? Et ensuite, est-ce que ma fille, ayant pris autant d'antibiotiques en 2 ans, avec toutes ses angines à répétition, beaucoup d'antibiotiques, mais surtout différents antibiotiques, est-ce qu'elle a forcément développé, parce que ça a l'air de ne plus être très efficace, alors c'est que c'est...
Merci Manel pour cette question, on va essayer d'y répondre. En tout cas, on entend les enfants derrière vous, ils ont l'air en pleine forme. Hein. Je ne sais pas s'ils sont antibio-résistants, mais ils ont de l'énergie. Qui veut répondre
Moi, je peux...
Oui, Philippe Glaser.
Oui, en fait, le point, c'est, je pense que s'ils sont en pleine forme... Donc,
ça s'entend,
c'est déjà un point positif. Par rapport, effectivement, c'est difficile de discuter ici le traitement qui est donné. En général, un point positif par rapport aux angines, ces angines sont dues à un streptocoque du groupe A, qui a la propriété de ne jamais être résistant à la pénicilline. Donc on peut toujours donner le même antibiotique pour cette bactérie. Donc ça, c'est un point qui est positif. Donc on peut se demander pourquoi le médecin a changé de traitement au cours du temps. Xavier a quelque chose à dire.
Un mot, Xavier, Lescure, et on rend l'antenne.
Cette question illustre deux points importants. La première, c'est qu'il y a effectivement, sur cette amélioration de l'usage antibiotique, il y a des tests rapides qui permettent d'identifier soit que l'infection est liée à une bactérie, soit que cette bactérie est résistante. Et le streptotest en fait partie. Il est peu utilisé parce qu'il prend un peu de temps. Et la deuxième notion que je voulais faire passer, c'est que, comme dans le réchauffement climatique, l'antibiorésistance, c'est une échelle collective et qu'il y a encore du scepticisme.
Merci à tous les trois. Merci aux auditeurs de France Inter. Le journal est à suivre.